Tamani, voici nos informations en français.
C'est sous cette fraîcheur à Bamako, après la grande pluie de ce matin, que nous ouvrons cette édition. Voici les titres. Le Mali et le Niger vont prochainement mettre en place un comité transfrontalier de sécurité contre le terrorisme au niveau de leurs frontières. Une décision annoncée à l'issue de la visite de travail du président nigérien Mahamadou Issoufou ce week-end à Bamako. L'alphabétisation a été célébrée hier dimanche 8 septembre à travers le monde à la faveur de la formation non formelle. Un programme suivi au Mali depuis les années 60, mais aujourd'hui, le taux d'alphabétisation n'a pas encore dépassé 40% selon les autorités. Le collectif Tombouctou réclame ses droits, poursuit son mouvement pour réclamer la réhabilitation de la route Léré-Tombouctou. Il annonce la fermeture des services publics de l'État, y compris les banques, à partir de ce lundi matin. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la présentation Mariam Meiga. La mise en place d'un comité transfrontalier de sécurité contre le terrorisme entre le Mali et le Niger, c'est l'une des principales décisions prises à l'issue de la visite de travail du président nigérien Mahamadou Issoufou à Bamako. À travers cette visite, les deux chefs d'État veulent insuffler une nouvelle dynamique à la coopération multiforme entre les deux pays. Les détails avec Moussa Malé Sissoko.
Dans un communiqué, les deux présidents maliens et nigériens ont exprimé leur volonté d'éradiquer le terrorisme en s'appuyant sur les mécanismes bilatéraux et multilatéraux. Pour ce faire, Ibrahim Boubacar Keïta et Mahamadou Issoufou préconisent une approche sous-régionale et régionale, soutenue par des échanges de renseignements et une mutualisation de leurs moyens. Selon ce communiqué, le comité transfrontalier de sécurité contre le terrorisme sera composé des ministres en charge de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, de la justice, des finances, ainsi que des représentants des conseils nationaux de sécurité des deux pays. Les ministres concernés ont reçu des instructions fermes pour une opérationnalisation rapide de cette initiative. Les chefs d'État ont mis également l'accent sur la nécessité d'ouvrir de perspectives nouvelles dans d'autres domaines, à savoir l'équipement et les transports, l'énergie, les mines et l'hydrocarbure. Cette visite de travail du président nigérien au Mali, à l'invitation de son homologue malien, intervient à un moment où une vingtaine d'ex-combattants du MOC sont portés disparus depuis le mercredi dernier. Ils ont été enlevés dans la région de Mopti par des hommes armés.
Suite à cette visite du président nigérien, certains observateurs estiment que l'initiative de la mise en place d'un comité transfrontalier pourrait être utile en matière de sécurité, car selon eux, elle pourrait efficacement lutter contre le terrorisme au niveau des frontières Mali-Niger. Cependant, cela exige la mutualisation des efforts pour faire face aux problèmes de sécurité, explique Serge Daniel. Il est joint par Mahaman Babakunta.
Le comité peut être utile. Vous avez entendu les propos très forts du président nigérien. Il avait dit en dehors du Mali, il a redit ici, la situation actuelle est un danger pour nous au Niger. Donc si on veut régler le problème au Niger, il faut régler le problème au Mali. Et donc il le dit de manière assez claire. Mais l'analyse est simple. Ça veut dire quand même que les auteurs savent une chose, c'est que si le MOC se met en place, c'est-à-dire l'embryon de la future armée malienne, c'est que cet embryon de la future armée malienne ira chercher les terroristes où ils sont, à la fourchette, à l'escargot, si vous permettez l'expression. C'est pour ça que les terroristes font tout pour ne pas mettre en place le manque. Parce que si les troupes sont formées, si on a une unité mixte composée d'ex-rebelles et de soldats de l'armée régulière, c'est un danger pour les terroristes et ça, ils ne le veulent pas.
Et rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos commentaires sur notre page Facebook ou encore notre compte Twitter ou recevez tout simplement les informations du Studio Tamani en envoyant Studio Tamani au 77 01 58 01. L'alphabétisation est célébrée hier dimanche 8 septembre à travers le monde à la faveur de la formation non formelle. Le Mali a commencé les programmes d'alphabétisation depuis les années 1960. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation n'a pas encore dépassé les 40% selon la Direction nationale de l'éducation non formelle. Ce retard s'explique par de nombreuses difficultés auxquelles le secteur fait face, selon certains observateurs. Les détails avec Ibrahima Haran Diallo.
Ces difficultés sont entre autres la faiblesse des outils technologiques dans les efforts d'apprentissage. Selon les responsables de formation, l'accès aux moyens numériques permettra aux formateurs de s'adapter aux mutations actuelles dans le domaine d'accès aux connaissances afin de faciliter la distribution des connaissances. L'autre difficulté est d'ordre financier. La Direction nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle estime que son budget alloué aux formations est assez insignifiant au regard des nombreuses attentes. En dépit de ces difficultés auxquelles l'alphabétisation fait face au Mali, des efforts sont en cours avec la mise en place d'une diversité de centres d'apprentissage à travers le pays. Selon Jakarja Diara, chef de la division alphabétisation, il existe près de 4000 centres de formation sur l'ensemble du territoire national. Ces centres sont répartis selon les types de formation. Il s'agit des centres d'alphabétisation fonctionnelle, des centres d'éducation pour le développement, des centres d'apprentissage féminin et des centres d'éducation pour l'intégration. Ces formations ne sont pas organisées à l'intention uniquement des adultes, comme le pensent de nombreuses personnes, explique M. Diara. Selon lui, au-delà de ces personnes, des jeunes filles et garçons déscolarisés ou non scolarisés sont aussi concernés par l'alphabétisation.
Certains observateurs expliquent ce retard du Mali acquis dans le cadre de la promotion d'alphabétisation par une négligence du secteur de la part des autorités maliennes. Selon eux, les Maliens s'intéressent de plus en plus à l'alphabétisation, ainsi l'État devrait s'impliquer davantage dans ce domaine, conclut-il. Seydou Loua, pédagogue, est au micro de Ibrahima Haran Diallo.
L'État n'est pas vraiment engagé là-dedans. C'est surtout les ONG, les institutions financières internationales qui financent. Donc, il faut que l'État malien s'engage un peu plus dans l'alphabétisation. Les budgets sont insuffisants. On a effectivement un centre national des ressources de l'éducation non formelle qui fait un travail assez remarquable, mais en réalité, il faut reconnaître que c'est insuffisant. Parce qu'il faut reconnaître que les gens s'intéressent beaucoup à l'alphabétisation fonctionnelle et à l'alphabétisation en général. Quand on regarde les cours d'histoire, ça s'améliore chaque année. Quand on regarde les centres d'éducation pour le développement, il y en a un peu partout. Ces centres sont fréquentés, mais par manque de ressources ou insuffisance des ressources, souvent ce sont des centres qui sont désertés par le public. Donc l'État doit davantage s'impliquer en donnant beaucoup plus de financement à ces centres-là.
Le mouvement des associations eux sympathisants de l'imam Mahmoud Diko a été lancé ce samedi 7 septembre au Palais de la Culture de Bamako. Selon les initiateurs, il s'agit d'un mouvement qui soutient les idéaux de l'imam dans la lutte pour un Mali de paix et de justice. Aucune prétention politique n'est visée par l'imam, précise le président de la coordination de ce mouvement, Issa Kaoudjim. Il est joint par Ousmane Diko.
Mais aussi des associations venant du monde religieux, comme de la société civile et des sympathisants, ont convergé vers son leadership. Il faut lui donner un instrument qui permet de donner une orientation à la démocratie et à la bonne gouvernance. Du coup, l'imam, il a dit clairement qu'il n'est candidat ni aux élections présidentielles, ni à la députation, et qu'il veut être ceux qui apportent leur contribution à la bonne gouvernance, à la justice sociale, et cela passera dans l'imam Mahmoud Diko, se verse totalement dans la société civile et pour aider notre pays à trouver les voies et moyens pour retrouver sa dignité. La SEMAS, à coordination des mouvements associations, sympathisant l'imam Mahmoud Diko, est là pour soutenir toutes les bonnes actions, toutes les bonnes initiatives qui permettront à notre pays d'aller de l'avant. Donc tout le monde soit rassuré que ce mouvement est politique pour aider le pays et non un régime ou contre un régime.
Le collectif Tombouctou réclame ses droits, continue toujours son mouvement en faveur de la réhabilitation de la route passant par Léré à Tombouctou. Après avoir barricadé les entrées de l'aéroport, les bateaux sont également bloqués par les jeunes dans la localité de Kouriomé. Selon le porte-parole du collectif, même les services publics de l'État, y compris les banques, seront également fermés à partir de ce matin. Oumar Baraka, porte-parole du collectif, est joint par Mahaman Babakunta.
Actuellement, nous sommes au niveau de l'aéroport de Tombouctou que nous avons barricadé avec tout un monde prêt à tout pour obtenir satisfaction par rapport aux différentes revendications du collectif Tombouctou réclame ses droits. Cette désobéissance civile, les bateaux en fait partie. Les bateaux font rentrer également quelque chose à l'État malien. Donc, nous avons dit que ces bateaux-là ne pourront pas bouger jusqu'à ce que nous ayons satisfaction totale. Nous avons demandé à la population de Tombouctou de ne pas payer ni impôts ni taxes et de ne payer quoi que ce soit pour l'État.
Selon vous, cela ne va pas avoir d'impact sur la population tomboktoucienne?
La population tomboktoucienne a accepté avec nous ce sacrifice parce que la population tomboktoucienne a souffert. Ce sont des revendications de la population tomboktoucienne que nous portons. Donc Tombouctou ne peut pas s'opposer à ça.
Sidio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
À présent, le tour d'horizon de l'actualité régionale. Les éléments du mouvement Gandakui ont empêché ce samedi soir le braquage d'une alimentation par des individus armés à Ansongo. D'après les sources locales, les assaillants au nombre de 3 ont d'abord procédé à des tirs de sommation pour effrayer les vendeurs de la dite alimentation. Alertés par les coups de feu, les éléments du mouvement Gandakui ont intervenu et l'un des malfrats a été arrêté et remis à la gendarmerie de la localité. Le bois de chauffe est devenu une denrée rare dans le cercle de Massina. À l'absence de l'administration forestière sur le terrain dans les communes suite à l'insécurité, les forêts, y compris celles classées, ont été détruites. Du coup, le manque cruel de bois de chauffe se fait sentir dans la localité. Autrefois, la charrette remplie qui était vendue à 4500 francs CFA sur le marché est aujourd'hui cédée au double du prix, voire plus. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Marie Meiga. La mise en onde a été assurée par Noum Djiri. Ne décrochez pas car l'info continue.